France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 février. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, une fuite de données d'une ampleur inédite en France. Des dizaines de laboratoires d'analyse se sont fait pirater les données médicales de 500 000 Français se retrouvent sur Internet. Analyse en début de journal, Laurence, après les autres titres.
La mise en examen de Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle. Deux jeunes de 14 ans tués en 24 heures. Lors de rixes entre bandes rivales. La France qui revoit ses ambitions à la baisse. Il y aura moins d'AstraZeneca, le vaccin, que prévu dans l'immédiat. Et puis le Madison Square Garden qui rouvre pour la première fois en un an pour le plus grand bonheur des fous de NBA.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa Salamé.
Un Américain à Paris. Il a été l'auteur l'été dernier avec 150 personnalités d'une tribune retentissante sur la cancel culture aux États-Unis. Il sort aujourd'hui une autobiographie sincère, anticonformiste, une réflexion sur les races, l'identité, les séparatismes et les préjugés. Thomas Chatterton Williams sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec l'économiste professeur au Collège de France, Philippe Aguillon. Vos questions, dès maintenant, le standard est ouvert. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
France Inter.
Piratage d'une ampleur exceptionnelle. Près d'un demi-million de Français sont concernés. Leurs données personnelles et médicales circulent désormais sur les réseaux sociaux. Alors au départ, un fichier qui circule sur le Darknet attire l'attention d'un spécialiste informatique et en cause un logiciel obsolète utilisé par des dizaines de labos, Dedalus France. Conséquences, grossesse, séropositivité, cancer, autant d'informations sensibles qui ont été volées, Xavier Demagny.
Oui Laurent, ce sont des identités, des adresses, des numéros de sécu et même des informations donc très précises sur les analyses des patients et leur état de santé qui sont dévoilées par cette fuite de données, une fuite révélée par un spécialiste cybersécurité donc, et dont Libération et Le Figaro ont remonté le fil. On parle là donc de 500 000 lignes de données mentionnées depuis plusieurs jours dans des conversations entre pirates informatiques et proposées à la vente. D'où viennent-elles? D'un certain nombre de laboratoires d'analyse médicale situés dans le quart nord-ouest de la France, le Morbihan, les Côtes d'Armor ou l'Eure par exemple. Elles proviennent de les analyses qui sont mentionnées ont été faites entre 2015 et octobre 2020. L'ancien ministre de la Défense Hervé Morin est par exemple mentionné. Ces données, dont au moins une partie, ont donc été rendues publiques gratuitement. L'une des hypothèses avancées par Libération est celle d'une dispute entre les pirates, et si en les rendant accessibles elles perdent toute valeur marchande, la fuite est d'autant plus grave car elles circulent donc bien plus. Beaucoup encore d'interrogations, on ne sait pas par exemple s'il s'agit de l'intégralité du fichier ou seulement d'une partie. L'entreprise qui gère le logiciel de saisie avait été victime d'un piratage avec rançon début décembre. Reste à savoir s'il y a donc un lien entre ce piratage et la fuite de données qu'on découvre aujourd'hui.
Merci Xavier Demagny. L'acteur Gérard Depardieu mis en examen en décembre pour des viols présumés en 2018, plus de 2 ans et demi après sa plainte. Cette comédienne a obtenu la mise en examen du monstre sacré du cinéma français pour de viol. Donc bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
Une mise en examen donc après la plainte d'une jeune femme qu'elle avait une vingtaine d'années.
La jeune femme qui souhaite rester anonyme et invoque via son avocate le respect de sa vie privée est une comédienne. Ses parents, des amis de Gérard Depardieu qu'elle fréquentait depuis l'enfance, jusqu'à ses visites à son domicile dans le 6e arrondissement de Paris. On est alors à l'été 2018, les 7 et 13 août précisément, lorsqu'elle subit ce qu'elle a rapidement dénoncé comme des faits de viol et agression sexuelle, au pluriel donc, des faits que l'acteur de 72 ans lui conteste totalement, précise son avocat, qui regrette amèrement que cette affaire ait été rendu public.
Et d'ailleurs, Charlotte, cette affaire a d'abord été classée sans suite par le parquet.
Au terme de plusieurs mois d'investigation au cours desquels Gérard Depardieu a été longuement entendu et même confronté à la jeune femme devant les enquêteurs, le parquet avait en effet décidé de clore le dossier faute d'éléments suffisants selon lui. Mais une nouvelle plainte de la jeune femme avec constitution de partie civile a automatiquement relancé la procédure et conduit à la saisine d'une juge d'instruction. Juge qui, sur la base des mêmes éléments, a donc décidé, elle, qu'il y avait matière suffisante pour une mise en examen de l'acteur. Cette divergence différence de regard sur les faits porterait notamment sur la question du consentement ou non de la jeune femme.
Charlotte Piret, deux adolescents tués en 24 heures lors de rixes entre bandes rivales. Un garçon de 14 ans est mort dans l'Essonne, moins de 24 heures donc après le décès dans ce département d'une collégienne poignardée lors d'une rixe entre mineurs. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi dès hier soir dans ces deux villes de renfort des forces de l'ordre, 60 gendarmes à Saint-Chéron et 30 policiers à Boussy-Saint-Antoine.
On a déchiffré au ministère de l'Intérieur 74 bandes, on va dire d'adolescents et de jeunes adultes, dont l'essentiel, 70, sont en Île-de-France. Et donc on voit bien que c'est un phénomène très francilien, qui va de pair avec la déscolarisation, qui va de pair avec le manque d'autorité parentale, qui va de pair évidemment avec les nouvelles technologies et avec une violence que j'ai déjà dénoncée précédemment. Nous voyons bien ici que nous devons prendre en main ce que nous a demandé de faire le président de la République en jouant sur évidemment la meilleure coordination entre les services de l'État et notamment l'éducation nationale, et Jean-Michel Blanquer y est attaché, je le sais, avec les collectivités qui connaissent mieux que personne les familles, les difficultés, la déscolarisation. Nous devons davantage parler avec l'autorité judiciaire évidemment, et puis renforcer évidemment la responsabilité des parents.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les affrontements, je le disais, ont eu lieu dans deux villes différentes, Saint-Chéron lundi, Boussy-Saint-Antoine hier, deux villes distantes d'environ 45 km, mais les deux affaires ne semblent pas être liées selon le parquet. Notre reporter Delphine Evenou est allée à Saint-Chéron, 5000 habitants, une ville pavillonnaire, entouré de nature, bien loin des milieux très urbains que l'on associe souvent aux affrontements entre bandes.
Dans la rue du collège du Pont de Bois, bordée de maisons coquettes et jardins entretenus, un groupe d'adolescents profite de la douceur ensoleillée des vacances un peu sonnées.
On est un peu à la campagne ici. C'est pas comme à Grigny ou à Fleury ou je sais pas. Il n'y a pas grand-chose ici.
Et pourtant, la rivalité entre la bande de Saint-Chéron et celle de Dourdan, ils en avaient connaissance comme beaucoup.
Ça fait un petit bout de temps que ça a commencé, parce qu'ils se cherchaient et tout.
Depuis la fin de l'année dernière, explique-t-il, avec des affrontements sur les réseaux sociaux notamment.
C'était sur Snapchat aussi.
Des petits du groupe de Saint-Chéron qui se sont fait attraper par un grand à Dourdan et qui ont présenté des excuses en vidéo, quoi, c'est tout.
De temps en temps, les jeunes de la ville concurrente viennent sur le territoire adverse, à deux stations de RERC, pour montrer les muscles, mais rien de plus.
Il y a des rivalités partout. On va n'importe où, il y a des rivalités entre deux groupes. Mais là, je sais pas, c'est parti trop loin, quoi.
C'est une accumulation, mais personne s'y attendait.
Enfin, je pensais pas y aller avoir un truc comme ça.
Personne n'y pensait.
À la limite, une bagarre.
Ouais, ça se règle en contre un ou groupe à groupe, mais pas quelqu'un qui s'est tué. Ouais, genre pas avec l'arme blanche.
J'espère que ça va mettre fin, parce que Saint-Chéron, c'était calme jusqu'à là, quoi. J'ai envie que ça reste calme, parce que c'est paisible, on est bien ici.
À 16 ans, eux vont au lycée à Dourdan, mais n'ont pas peur, ils sont trop grands. Ces bandes concernent uniquement les collégiens, selon eux.
Il est 7h08, la montée en puissance des livraisons de vaccins, Laurence, encore contrariée.
Le géant pharmaceutique britannico-suédois AstraZeneca ne pourra fabriquer dans l'Union européenne que la moitié des doses qu'il doit fournir à l'UE au deuxième semestre. Il produira ailleurs le reste des vaccins promis aux Européens. Ainsi, en février, la France aura reçu 1 700 000 doses d'AstraZeneca au lieu des 2,5 millions attendus. Mais le gouvernement assure qu'il y aura un rattrapage au mois de mars. Autre difficulté dans cette campagne de vaccination, pour certains Français, il est très compliqué de recevoir la précieuse dose. C'est le cas des habitants des îles bretonnes, notamment à Molène, au large du Finistère. Alors sur ces territoires, ce ne sont pas les habitants qui vont au vaccin, mais le vaccin qui vient à eux grâce aux sauveteurs bénévoles de la SNSM. Rémi Brancato.
Il y a quelques jours, Guy Rocher, le patron du canot de sauvetage de la SNSM sur l'île de Molène, est parti au Conquet, sur le continent, pour chercher 3 médecins et 60 doses du vaccin Pfizer. Au retour, deux priorités pour la traversée, maintenir les vaccins au froid et stable.
On a de la chance, on a du 220 volts à bord. La glacière peut être branchée directement sur le 220 volts. Après, il ne faut pas que le vaccin soit trop secoué, donc on essaie que le bateau bouge le moins possible. Disons qu'on était toujours à l'abri de l'archipel de Molène, c'est plein de petites îles, donc on a toujours réussi à trouver de l'abri pour la traversée.
Sur l'île, les médecins ont vacciné à domicile, une tournée d'un jour qui va se répéter au moins pour la deuxième dose le 19 mars. Y participer, c'était logique pour les sauveteurs en mer bénévoles de la SNSM.
On fait énormément d'évacuations sanitaires, donc c'est le prolongement de ce qu'on fait d'habitude, parce que bon, sur une île, on est quand même en vase clos, et c'est-à-dire que si une personne serait malade, ça irait très vite.
Des sauveteurs en mer qui s'improvisent livreurs de vaccins ou gérants d'un centre d'appel, c'est le cas dans un centre de formation de l'Indre. Pour contacter les malades du Covid, l'association mobilise ses forces, explique Laurent de Vavry de la SNSM du Finistère.
Il y a des bénévoles qui sont prêts à donner un coup de main, qui n'est pas forcément dans notre mission de base, mais aider la population.
population, c'est une de nos missions.
La SNSM a aussi livré des vaccins sur les îles d'Ouate et de Groix dans le Morbihan.
Rémi Brancato, Olivier Véran est attendu cet après-midi à Dunkerque dans le Nord. L'agglomération touchée de plein fouet par le variant anglais pourrait bien subir le même sort que Nice et les Alpes-Maritimes qui connaîtront deux week-ends de confinement. Et à New York, cette bouffée d'air pour les fans de basket. Le Madison Square Garden a retrouvé des couleurs. Un an qu'aucun spectateur n'avait pu assister à un événement dans l'arène la plus célèbre du monde pour cause de pandémie. Hier soir, on était loin des 10 000 spectateurs. Seuls 2 000 privilégiés ont été autorisés à assister au retour des Knicks dans la salle mythique. On retrouve Loïc Loury.
352 jours sans voir leur jardin, le Madison Square Garden dans le centre de Manhattan. Hier, 2000 fans munis d'un masque et d'un test PCR ont pu enfin retrouver le Saint des Saints.
J'en rêve depuis un an, alors je suis très impatient.
2000 personnes, ça va être bizarre, caverneux, mais c'est toujours mieux que de regarder le match sur mon canapé.
New York est de retour, c'est génial.
Content de vous revoir, dit l'écran géant au-dessus du parquet. Un hommage est rendu aux victimes du Covid, l'hymne retentit et la salle en effet sonne creux. Il faut dire qu'à 10% de capacité, 18 000 sièges sont restés vacants. Mais personne ne s'en plaindra, l'ambiance est plus ou moins là et malgré la défaite, les supporters revivent. Ils auraient pu courir un peu plus vite, mais c'était bien. Même si on perd, c'était une victoire parce qu'on a pu venir supporter l'équipe. Je suis heureux, ça m'a donné de l'énergie.
En espérant qu'on puisse bientôt remplir un peu plus la salle pour vraiment les encourager et qu'ils aient l'énergie de gagner.
Elle ne sera peut-être pas ravie d'apprendre que les Nets, l'autre équipe de New York, eux ont gagné avec seulement 300 spectateurs. New York, Loïc Loury, France Inter.
La star du golf, Tiger Woods, gravement blessé dans un accident de la route à Los Angeles. Le champion de 45 ans a perdu le contrôle de sa voiture. Il a effectué plusieurs tonneaux. Tiger Woods est hors de danger, mais il serait touché aux deux jambes et il doit être opéré. En ces temps masqués, voici une exposition qui fait du bien, des sculptures olfactives. C'est à la galerie Nathalie Obadia à Paris. L'artiste plasticien Antoine Renard s'est inspiré de la petite danseuse de 14 ans de Degas et chaque version de cette petite danseuse porte un parfum unique, Isabelle Pasquier.
C'est une expérience inédite de l'art qui se respire et même avec un masque sur le nez, on est envahi par le parfum unique de chaque sculpture. Antoine Renard s'est emparé de la dérangeante petite danseuse de 14 ans de Degas. Il l'a métamorphosée en 27 créations en céramique à partir d'une impression 3D. Certaines sereines en ton pastel, d'autres plus inquiétantes ou même carrément ravagées par le temps comme une vieille souche d'arbre. Référence au corps sali, abusé de ces petits rats de l'opéra. Musc, orange amer, camphre, goudron de bouleau, ces accords perturbent notre perception visuelle. Antoine Renard interroge l'olfaction dans la construction de notre mémoire, de notre identité.
Je m'amuse depuis quelque temps à infuser mes œuvres plastiques, solides, avec des matières invisibles, volatiles, telles que le parfum, pour leur donner une forme de profondeur. Ça les anime, ça leur donne une identité qui n'est pas que visuelle, qui a pour effet aussi de toucher les gens sur quelque chose qui est beaucoup plus intime en fait, qui est beaucoup plus personnel.
Quand l'art nous permet enfin de respirer et rend hommage à cette petite danseuse de 14 ans, réduite à l'époque à la moquerie, à la misère et au silence, une interrogation sur la destruction et la renaissance.
Isabelle Pasquier, ça sent la fin du journal.
Merci Laurence Thomas. Le zoom dans 3 minutes maintenant. La guerre contre le plastique a commencé au Sénégal.